Salut, bienvenue dans le podcast Célibataire. Aujourd'hui, je suis avec Estelle. Donc Estelle, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et depuis combien de temps tu es célibataire ?
Salut Isis, donc j'ai 27 ans et là, ça fait à peu près 5 mois que je suis célibataire depuis la fin de ma dernière relation amoureuse.
Alors, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous raconter, là, ce qui vient de se passer pour toi ces 5 derniers mois ? Donc, tu as eu une séparation, tu as vécu une phase de célibat. Comment tu l'as vécu émotionnellement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu des réalisations pendant cette période ?
Alors oui, du coup, j'ai eu une séparation donc il y a à peu près 5 mois, début d'année, d'une relation longue qui avait duré plus de 6 ans. Donc la séparation s'est très bien passée, il n'y a pas eu trop de soucis de ce côté-là. Pendant ma période de célibat, là, ça faisait donc longtemps que j'avais pas été célibataire. Et j'ai réalisé pas mal de choses sur moi, je vivais le fait d'être seule ou pas en couple du coup, et notamment un des trucs qui m'a on va dire le plus impacté ou en tout cas fait souffrir du moins au début, c'était le fait de réaliser que je m'étais un peu perdue, je pense, dans mon couple, dans le sens où je m'étais effacée, j'étais devenue vraiment un nous. Et j'avais perdu ce jeu de moi et ce qui me fait envie et et qui je suis en fait. Ça a été compliqué au début parce que forcément, j'avais l'impression de vraiment me retrouver complètement seule, de perdre cette composante qui était finalement le couple, j'étais le couple, donc ça a été assez compliqué de ce côté-là. Le fait de choses que je referais pas, je pense, enfin j'ai appris ça sur moi et je veux pas réappliquer ça à d'autres relations, prochaines relations de couple. J'avais un peu délaissé mes amis, mes relations amicales, enfin j'avais toujours mes potes et tout, mais je les voyais vraiment pas très souvent. Et finalement, mon meilleur ami et la personne en qui je me confiais, c'était mon copain. J'ai un peu perdu tout ça d'un coup. Donc, mon copain, mon meilleur ami, mon confident, tout, quoi. Vu que c'est en plus au début, hein, une période un peu difficile, la séparation, mais après aussi le célibat, enfin... c'est pas toujours facile, donc je me suis retrouvée sans personne en qui me confier, alors que c'est quelque chose de très important pour moi de parler, et ça a été compliqué. Après j'ai trouvé des ressources, ma sœur, merci, merci Nadège, et des copines que je pouvais solliciter, mais ça n'a pas été évident pendant toute une phase au début. On voulait en discuter. J'ai tendance à être un peu, enfin voilà, avoir un peu une dépendance affective de manière générale, mais surtout auprès d'hommes, de façon, enfin dans des relations amoureuses, et d'avoir besoin de leur de leurs compliments, de leur valorisation de moi pour me sentir valorisée, pour me sentir belle, forte, intelligente, etc. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé là pendant cette période de célibat, que je ne m'apportais quasiment pas à moi-même, et du coup ça a été difficile aussi parce que j'avais plus cette personne qui m'apportait cette valorisation de moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. J'ai réalisé que c'était un peu un peu comme une drogue, dans le sens où je suis vraiment dépendante de ce que les autres disent, et j'ai besoin et je recherche constamment qu'on me dise des choses positives sur moi. Et ça suffit pas qu'on me le dise une fois ou de temps en temps, et plus c'est presque plus on va me faire des compliments, on va dire souvent, plus j'en ai besoin, j'en réclame de manière encore plus fréquente. Et c'est, enfin, vraiment, je vois ça comme, comme une addiction, quoi. Et ça me plaît pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout confortable pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi, aussi découvert pendant cette période de célibat. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour pour répondre à ta question.
Du coup, là, dans cette phase où tu as réalisé tout ça, est-ce que tu saurais dire quelles pensées t'ont traversé l'esprit? Parce que du coup, là, c'est un peu les conclusions, tu vois, que tu as tirées de ce dont tu t'es rendu compte. Mais par exemple, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu avais besoin de compliments? Ou qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu te sentais peut-être dépendante de la validation de quelqu'un d'autre? Comment ça s'est traduit dans ton quotidien, peut-être dans ton corps, dans tes émotions, dans tes pensées?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'une des choses qui m'a fait prendre conscience de ce côté dépendance émotionnelle, c'est le fait de voir d'autres mecs, en fait, après ma séparation, de façon plus ou moins régulière, sans être en couple, quoi, mais voilà, d'avoir des relations avec des hommes et de me rendre compte que rapidement, même si au début c'était pas forcément des personnes à qui je tenais particulièrement ou qui m'attiraient particulièrement, le fait qu'ils me montrent de l'affection a fait que je suis devenue très rapidement dépendante, en fait, de ces relations-là. Je suis passée de casual, c'est bon, je m'amuse, voilà, sans plus, à me poser 30 000 questions, faire 10 000 films dans ma tête et toujours chercher à avoir de la confirmation que je suis spéciale pour eux, qu'ils ressentent quelque chose pour moi, tu vois, alors qu'en fait, c'était pas du tout ce que je recherchais au début. Mais c'est un mécanisme qui est visiblement très naturel chez moi et qui s'est mis en place rapidement à chaque fois. Et donc ça m'a fait prendre conscience que, de ça, que je recherchais ces marques d'affection de manière soutenue, voilà.
Ok, et donc ça c'est plus sur la partie compliments. Et tu parlais de « j'ai perdu, le jeu s'est perdu dans le nous ». Ça, comment tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu sais dire comment ça s'est traduit aussi?
Ouais, je pense que y a plusieurs choses, mais en fait, c'est tout bête. Mais au final, en y repensant, je pense que dans ma dernière relation de couple, il y a énormément de moments où je prenais pas forcément de décisions. Enfin, en gros, je me suis pas mal calée sur les décisions de mon ex. Décision de vie, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait, nanana, les vacances, j'en sais rien, tu vois. Aussi parce que j'aime pas faire des choix et c'était assez confortable pour moi d'avoir quelqu'un qui les fasse à ma place. Mais du coup, quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, déjà, rien que, où est-ce que je vais, quoi. Parce qu'on vivait ensemble, on s'est séparés, j'ai déménagé, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais? En fait, qu'est-ce que j'ai? De quoi est-ce que j'ai envie maintenant? Où est-ce que j'ai envie de vivre? De quoi est-ce que j'ai envie pour moi? Et je me suis rendu compte que c'était des questions que je m'étais pas, que je m'étais posées, mais c'était vraiment on, c'était nous, c'était où est-ce que nous on va, nos projets, et il y a des choses sur lesquelles on divergeait, donc. Donc je pouvais me rallier. Après il y a des compromis à faire, tout ça, voilà, relation de couple. Mais c'était vraiment la première fois depuis très longtemps que je me posais des questions sur. J'ai besoin de satisfaire les besoins de personnes d'autres. De quoi est-ce que moi j'ai besoin? De quoi est-ce que moi j'ai envie? Et c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que je m'étais effacée dans le nous du couple. Et que c'était assez inconfortable aussi pour moi finalement de me poser ces questions sur moi et déjà de me dire waouh, mais t'as 27 ans, tu sais pas ce que tu veux dans la vie. et en même temps, j'ai pas forcément trop envie d'y penser. C'est agréable, en même temps c'est très inconfortable parce que j'ai pas forcément les réponses, donc voilà, c'était un peu toute cette réalisation là.
Ouais, tu t'es un peu laissé porter par les décisions de l'autre et par ça. Ok. Tu me disais aussi dans ton audio avant qu'on fasse l'interview que tu avais du mal à passer du temps seul. Est-ce que tu peux décrire peut-être des exemples, des moments où tu t'es dit j'arrive pas à être seule. Tu me disais que tu allais un peu sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Comment ça s'est passé, ça, ce temps seul? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvée seule? Comment tu as occupé ton temps et comment tu as géré ça?
Alors en fait c'est marrant parce que ça remonte vraiment à loin. Enfin je me souviens, ça fait très longtemps que j'ai pas vécu seule déjà. C'était ma première année après le bac, j'étais seule dans une chambre genre étudiante, ça s'est très mal passé. Et tout de suite après j'ai vécu en coloc ou en couple toutes mes années suivantes. Et parce que en fait je vivais très mal la solitude, le fait de me retrouver seule avec moi-même, seule chez moi, même en faisant des choses. Et là c'est revenu, donc je me suis rendu compte, même si j'étais chez mes parents, j'ai pas vécu seule après, mais bon, j'ai passé pas mal de temps seule comparé en opposition à avant où on était beaucoup à deux, surtout pendant tous les confinements et tout. Et ouais, ça se traduit par ouais être souvent sur mon téléphone ou qu'il soit à côté, avoir tout le temps même si je regarde, surtout en fait si je regarde un film ou une série, je sais pas trop pourquoi, j'ai pas encore compris, mais peut-être le fait d'être passive en fait devant quelque chose, et ben c'est pas suffisant, j'arrive pas à faire juste ça, il faut que je sois en train de discuter avec quelqu'un par message en même temps en fait. Sinon je mange. Sinon je me vautre sur ce qu'il y a de sucré à côté, et ça m'a pas trop non plus. Donc ouais, le besoin de d'être constamment ouais en discussion. Et ça aussi, par exemple, bah comment occuper mes week-ends, enfin je me suis rendu compte que j'avais besoin d'occuper tout le temps mes week-ends, de voir des gens, et que un week-end où bah je vois personne, je le vivais un peu comme un échec en fait. Et ça m'était pas je me enfin ça m'était jamais arrivé avant en fait, je me rendais pas compte avant. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure du fait de d'avoir perdu un petit peu ce lien avec mes amis. Et ben pourtant je suis revenue dans la ville de mon enfance, là où j'ai la plupart de mes potes, mais je pouvais pas les voir tous les week-ends parce que ben, ils étaient pas forcément dispo tous les week-ends, et que bah ben, peut-être ça les fait chier de me voir tout le temps aussi. Mais j'avais ce besoin, je me disais ah si je vois personne ça craint, ou je vais me retrouver toute seule, et j'avais vraiment peur de me retrouver toute seule quoi. Je sais pas forcément, j'ai pas encore exactement identifié pourquoi, mais ouais, ça s'est vraiment traduit comme ça.
Et donc tu parles des moments, par exemple, en train de regarder un film, le besoin d'être en discussion avec quelqu'un, et des week-ends. Est-ce que tu peux comparer avec quand tu étais en couple, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a été différent quand tu t'es retrouvée seule par rapport à quand tu étais en couple?
Bah, je pense que je vais commencer par les week-ends parce que c'est le plus facile. En fait, les week-ends, je sais pas. Enfin, on avait tout le temps des trucs de prévu, quoi. Et même si presque, en fait, j'aimais trop, et j'attendais des week-ends où j'avais rien de prévu et où c'était cool, et on pouvait juste se poser à deux à rien faire, ou juste, enfin voilà, mater un film ou quoi. Mais ouais, j'avais beaucoup plus de choses de prévues dans mes week-ends. Alors peut-être du coup des sorties ou des choses que je fais pas forcément seule, ou aller visiter un village ou n'importe quoi, faire une rando. Et là, j'ai fait des randos toute seule et tout, hein, mais au début je le faisais pas forcément, et du coup, bah toutes ces options-là, je les écartais un peu, donc c'est ça qui a changé pas mal. Et après, alors en regardant un film, je pense que je l'ai toujours un petit peu eu. En regardant un film ou une série, cette envie d'être aussi sur mon téléphone, mais je pense que ça venait pas de la même chose. Je pense que c'était le fait de tout le temps faire plein de trucs en même temps, tout simplement. Quand j'étais en couple, alors qu'après, bah, il s'est rajouté la couche de je me sens seule et j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, enfin voilà, en même temps que je regarde un film.
Est-ce que tu as eu d'autres périodes de célibat dans ta vie? Et si oui, est-ce que tu peux comparer les deux? Est-ce que c'était différent et en quoi c'était différent?
Alors oui, j'en ai eu plusieurs, mais là je pense notamment à une, je pense la plus longue que j'ai eue. Ouais, quasiment. C'était dans ma première année d'école d'ingé, donc en gros bac plus 3. Et donc il y a à peu près un an, ouais, où j'ai eu un an entre deux relations avant de me mettre avec donc mon dernier copain. Et en fait, c'était assez différent. Déjà, bah, j'avais 20 ans, donc j'étais pas du tout enfin voilà, j'étais pas du tout la même personne en fait. Et en plus en étudiante, etc. Donc je l'ai vraiment bien vécu pendant plusieurs mois, je pense peut-être 6-7 mois, c'était bien parce que bon, en plus voilà, en école d'ingé, il y a plus de mecs que de que de nanas, donc c'était assez facile de bien m'amuser, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai bien profité de cette période-là, j'étais contente. Mais au bout d'un moment, je me souviens que j'en avais marre, que j'avais l'impression d'avoir envie de mettre en couple avec certains mecs que je voyais, mais que c'était pas forcément réciproque. Donc au début, bon, ça allait. Et après, ça a commencé un peu à me saouler. J'ai pris ça aussi comme du rejet. Donc c'était assez difficile. J'avais envie de me mettre en couple. Donc le fait de pas y arriver, c'était un peu pénible pour moi. Et voilà, ça a duré quelques mois avant que je me mette en couple. Et je me posais pas. En fait, ouais, je me posais pas toutes ces questions. J'avais vraiment pas cette approche de. En fait, peut-être que je peux me fournir de l'affection que je recherche à tout prix en venant de l'extérieur. C'était pas envisageable pour moi, j'avais même pas pensé en fait à l'amour de soi. Tout ça, c'est des choses que j'ai découvert là récemment. Et du coup, pour moi, la seule solution au bout d'un moment, bah, c'était vraiment d'être en couple pour arriver à m'apporter l'affection et l'amour que je recherchais. Alors que là, ces derniers mois, bah, c'est différent parce que du coup, ça fait 5 mois, donc ça fait pas aussi longtemps que la dernière fois, au moment où je commençais à en avoir marre et que je voulais être en couple. Mais dès presque, ouais, le premier mois de mon célibat cette fois-ci, j'ai commencé à surtout écouter plein de podcasts en fait, qui m'ont été recommandés, dont le tien. Et c'est ça aussi qui m'a fait me poser pas mal de questions et réaliser que j'avais un travail sur moi à faire parce que j'étais pas satisfaite de la façon dont moi j'étais et moi je m'apportais ce dont j'avais besoin ou je m'apportais pas justement. Et c'est une réflexion que j'avais vraiment pas du tout quand j'étais en école d'ingé, quoi.
T'as dit un truc par rapport à l'école d'ingé, t'as dit à un moment j'avais envie de me mettre en couple. D'où elle vient cette motivation? Pourquoi à un moment tu te dis, enfin je te pose la question mais j'ai eu la même chose, hein. Mais je veux ton avis à toi. Pourquoi à un moment tu t'es dit, là en gros ça suffit maintenant j'ai envie d'être en couple. À ton avis d'où elle vient cette envie? Qu'est-ce que tu recherchais dans le fait de te mettre en couple?
Je pense qu'à l'époque, ce que je recherchais vraiment, c'était une stabilité émotionnelle en fait. Parce que du coup, bah, c'était chouette, je m'amusais, j'avais eu plusieurs histoires différentes, mais j'ai tendance à, enfin, je vis très fortement mes émotions, surtout quand c'est amoureux. Et du coup, ouais, c'est très fort, c'est les premières rencontres, c'est tout ça, donc c'est génial. Et en même temps, c'était des périodes de bas, de déprime, de ce qu'il pense à moi, nanana, de prise de tête, de se faire 36 000 films, et c'était lassant. Et j'avais envie de stabilité dans mes émotions. J'avais envie aussi d'avoir des projets avec quelqu'un. J'avais déjà été en couple et j'avais bien aimé ces moments, donc j'avais envie de retrouver ça. Et ouais, quelqu'un, je pense avoir quelqu'un sur qui compter, en qui tu sais que tu peux avoir confiance, te confier, et puis bah qui m'apporte voilà de l'affection principalement aussi. C'était un peu toutes ces choses-là, et c'est aussi bon aujourd'hui, je suis pas forcément en recherche. Pour l'instant, d'être en couple, mais je sais que ça va me refaire envie à un moment donné, et ça sera pour les mêmes raisons principalement, quoi.
Ouais, je comprends du coup le côté stabilité émotionnelle. Je savais pas ce que tu mettais derrière ce mot avant que tu l'expliques, mais c'est vrai que je trouve que à chaque rencontre, il y a un peu le haut, le bas, enfin un peu la montagne russe de te poser des questions, pas savoir, c'est un peu fastidieux quelque part. Et sans compter parfois les déceptions ou les trucs comme ça. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, c'était pas ça qui me donnait envie d'être en couple. Mais du coup, je comprends ton point de vue et je l'ai vécu, je pense, à d'autres moments, enfin, d'autres façons. Alors, ouais, tu me parlais aussi, avant qu'on fasse, du coup, qu'on commence à enregistrer, du syndrome de l'imposteur. T'as dit que c'était lié un peu à ta vie pro, mais que ça a touché aussi à ta vie perso. Est-ce que tu peux nous raconter ce que t'entends par là? Comment ça se traduit dans ta vie, ce syndrome de l'imposteur?
Alors, ouais, du coup, donc moi, je suis en pleine démarche entrepreneuriale depuis le début de mon célibat, en fait, quasiment un peu avant, mais principalement, voilà, ça fait 5 mois. Et c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler du syndrome de l'imposteur, que je connaissais pas du tout avant. Et donc j'ai entendu parler, voilà, bon, très bien. Et récemment, j'ai eu beaucoup de réalisations un peu introspectives que ça me touchait quand même beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que je vis pas mal dans ma vie pro quand j'étais salariée ou aussi beaucoup maintenant dans le fait de vouloir lancer mon propre projet. Donc le fait de pas se sentir légitime, tout ça, mais aussi j'ai réalisé il y a très peu de temps que je pense que ça s'applique pour moi pas mal aussi à ma vie, un peu partout en fait dans ma vie, mais du coup là, vu qu'on parle de ça, dans ma vie amoureuse, dans mes relations amoureuses, et en fait ce que j'entends par là, c'est principalement je parlais tout à l'heure d'avoir ce besoin d'affection, de compliments, qu'on me valorise, enfin que l'autre, qu'un homme en fait me valorise pour me sentir bien. Et en fait, donc c'est un besoin que j'ai, mais en même temps, quand je reçois ces choses-là, pour moi c'est pas possible qu'il pense ça. Donc soit il dit ça parce que voilà, c'est du gros mytho et il a juste envie de voilà profiter de moi ou je ne sais quoi. Je me dis que c'est pas possible qu'il pense vraiment ça, qu'il y a forcément un agenda ou quelque chose de caché, une raison cachée pour qu'il me dise ça. Ou alors que toutes les autres filles qu'il a connues avant étaient vraiment nulles, donc en comparaison à ça, c'est pour ça qu'il me trouve bien. Et je me dis aussi, mais ça c'est pas conscient, enfin maintenant c'est conscient, mais ça l'était pas avant, il va finir par se rendre compte en fait que je suis pas comme la personne qui pense que je suis. Parce qu'au début d'une relation, on n'est jamais vraiment 100% soi-même, enfin, que ce soit l'un ou l'autre. Et je pense que je me l'autorise pas aussi, à cause de ça. Mais donc je me dis qu'il va finir par découvrir que je suis, un imposteur, en fait. C'est un peu ça, au final. Que je suis pas la personne qui pense que je suis pas si belle que ça, que je suis pas si intelligente, que je suis pas, enfin, tous les compliments que je peux avoir ou les choses qu'on me dit et que c'est pas vrai, il va réaliser ça et du coup il va finir par me lâcher, ça va être douloureux et en fait ça me pose plein de blocages dans mes relations et ma façon d'être avec l'autre aussi, ce fait de, enfin je m'auto sabote quoi en fait hein, comme dans la vie pro c'est un peu pareil et je me mets des bâtons dans les roues en me disant aussi je pense essayant de me protéger, de pas souffrir tout ça, ce qui est un peu autre chose. Encore autre chose, mais bon, voilà, c'est ça que je voulais dire par syndrome de l'imposteur.
Mais du coup, juste sur ce dernier point, quand tu dis, parce que j'allais te poser la question, est-ce que, enfin non, attends, ma question de base, c'est, est-ce que, comment se traduit cette protection? C'est-à-dire, est-ce que tu mets un masque, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as été en couple, enfin, quand tu étais là dans ta dernière relation, est-ce que quand même à un moment tu as tombé le masque ou tu as toujours une partie de toi qui se sentait mal à l'aise parce que peut-être tu essayais de pas être 100% toi? Et là, dans tes nouvelles relations, comment se traduit cette protection? Puisque tu me disais que tu voyais quand même quelqu'un, tu rencontres quand même des personnes, donc t'es pas dans le mode je mets une barrière, je veux plus personne parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. Tu es quand même dans la relation, dans l'interaction. Donc, où est cette protection? À quoi elle ressemble?
Alors, du coup, donc pour répondre à ta première question, oui, j'avais tombé cette protection dans ma dernière relation. Je saurais pas dire quand, parce que franchement, je me souviens pas, mais en fait, il y a un moment où je pense que je mets du temps à faire confiance à quelqu'un, mais il y a un moment où quand j'ai vraiment confiance, bah là, il n'y a plus aucun souci. Et quand ça fait assez longtemps, je me dis, bah quand même, c'est bon, il me connaît, voilà quoi. Enfin, c'est que c'est vrai. Donc il me faut du temps en fait, tout simplement. Et oui, ça tombe au bout d'un moment. Et là, dans mes relations de ces derniers temps, bah comment ça se traduit? Je pense par différentes manières, mais enfin, au final, c'est assez pesant sur moi. Je sais pas si ça se voit forcément chez l'autre, parce que du coup, je cache aussi pas mal toutes ces émotions et mon jeu, et parce que forcément, je me dis bah il faut que je continue ces apparences pour qu'il continue à croire que je suis parfaite, machin. Et donc, j'ai un peu un caractère aussi, je pense que ça se traduit par un caractère un peu schizo, enfin bipolaire chez moi, dans le sens où bah, je vais passer un super moment avec la personne et vraiment ouais, me livrer, ou en tout cas avoir un moment où j'ai pas ces barrières-là. Et puis tout de suite après, bah, je commence à, il y a toutes ces questions qui viennent, me dire non, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas souffrir, ça va pas aller loin, de toute façon t'en as pas forcément envie, tous les deux vous êtes dit que c'était, qu'il y avait rien de sérieux, tu vois, et même si j'en ai pas forcément envie et que ça me va, bah j'ai quand même toutes ces questions qui viennent dans ma tête et mon cerveau qui réfléchit un peu tout seul, enfin mon mental, et je vais tout de suite me freiner en fait dans mes émotions. Quand je ressens des émotions un peu fortes, bah j'essaie de revenir dessus. Sans que ça soit voulu, hein, parce que j'aimerais pas forcément, j'aime pas ce côté-là. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment un mécanisme de défense, de se dire, bah, t'attaches pas trop, parce que, bah, j'ai aussi une croyance qui est là depuis, je sais pas combien de temps, mais très longtemps, que tous les mecs sont des connards et voilà. Enfin, je sais que c'est pas vrai et consciemment, tu vois, j'ai eu des preuves que c'est pas vrai. Mais c'est une croyance qui est profondément ancrée là et du coup qui est un peu un instinct de survie, de se dire il va te faire du mal, donc surtout fais attention quoi.
Est-ce que cette croyance, elle vient d'histoires que toi t'aurais vécues par le passé qui t'auraient fait souffrir, ou peut-être que t'as entendu d'autres personnes avoir ce type d'histoire? En fait, j'avais noté ça avant que tu dises j'ai cette croyance. Je me suis demandé si cette peur de souffrir, elle venait d'une expérience vécue par le passé de chez toi, ou de choses que tu aurais observées, ou si tu sais pas d'où ça vient, mais c'est là quand même.
Alors pour moi, ça vient de deux choses. Donc il y a, ouais, il y a des expériences passées, clairement. Bah on m'a un ex m'a trompée et ça m'a vraiment chamboulée pendant très longtemps, et je pense que ça marque un peu pour toujours quoi. Donc il y a forcément ça, puis d'autres trucs un peu, on va dire, moindres, mais ouais, des expériences avec des hommes qui sans que ce soit dramatique ou quoi, hein, n'étaient pas forcément agréables à vivre. Donc il y a ce côté-là, et il y a aussi, je pense, mon père, en fait, qui m'a toujours dit, depuis que je me souviens, enfin peut-être depuis que je suis ado, on va dire, en gros, enfin il m'a un peu transmis cette croyance de fais attention, les mecs, enfin voilà, ils pensent qu'à baiser quoi, et ils s'en foutent de toi, sans qu'ils le disent forcément comme ça. Mais c'est quelque chose que je l'ai entendu dire de nombreuses fois. Je pense clairement parce qu'il avait envie de me protéger, enfin nous, ma sœur et moi. Mais voilà, ça me dessert plus qu'autre chose aujourd'hui parce que bah c'est pas vrai quoi. Et si tu penses comme ça, c'est vraiment difficile de construire quelque chose avec quelqu'un quoi. Donc je pense que ça vient principalement de ces deux sources. Ouais.
Oui, du coup ça a beaucoup de sens, surtout si c'est le papa qui dit ça quand on est une petite fille, ça compte quand même. Donc déjà l'âge, enfin le fait de recevoir ce type d'information tôt, ça l'ancre. Et en plus, je pense quand c'est un des deux parents, c'est peut-être d'autant plus fort. C'est une croyance qui est largement partagée par beaucoup de monde. Je pense que c'est une croyance qui doit peser à pas mal. Enfin, en tout cas, moi, j'ai aussi eu cette croyance. Je pense qu'au fond de moi, elle est peut-être encore un petit peu là. J'essaie de lutter contre parce que, comme toi, j'ai eu plein d'exemples que c'est pas vrai, que c'est pas forcément que les hommes sont pas forcément comme ça, tous. Mais je sais pas, je pense qu'il y a aussi un côté peut-être un peu sociétal, ne serait-ce que dans les films. T'as plein de films sur l'adultère, t'as des films sur des mecs qui couchent partout. Je pense que t'as aussi des filles qui couchent partout, mais enfin voilà, je pense qu'il y a une ambiance, il y a un truc qui fait qu'on pense ça. Donc bon, va savoir. Mais ok, ça a du sens du coup que ça se soit ancré. Et je me demandais si, par rapport à du coup la fois où ton copain t'a trompé, est-ce que tu penses que ton estime de toi a pu baisser à partir de ce moment-là ? Enfin, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du fait que même quand on te fait des compliments, quand ton copain te fait des compliments, t'as du mal à... Tu te dis, il va se rendre compte que c'est pas moi et il se trompe et tout, il voit pas qui je suis vraiment. Donc moi, j'attribue ça à un manque d'estime de soi. Est-ce que t'as l'impression que t'as toujours eu cet état d'esprit ou que c'est peut-être un point dans ta vie qui a commencé à la faire baisser, comme peut-être cet épisode où t'as été trompée ou un autre, je sais pas.
C'est rigolo que tu me demandes ça parce que je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que t'as raison. Enfin, je pense que oui. Alors, je me souviens plus trop avant, vraiment. Je pense que j'ai toujours eu un manque de confiance en moi ou d'estime de moi. Mais ça a pas aidé, c'est sûr et certain, parce que je me souviens très bien que quand il me l'a dit, la première émotion que j'ai ressentie, c'était de la honte. Comme si c'était de ma faute. Et j'avais jamais... alors que je m'étais tout le temps... En fait, je m'étais toujours dit, si jamais ça m'arrive, voilà, je fous une claque dans la gueule et je me barre et c'est fini. Et puis voilà, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ai ressenti vraiment de la honte. Et j'en ai honte aujourd'hui, en fait, d'avoir ressenti ça. Parce que c'était absolument pas de ma faute et tout. Mais je comprends un peu, parce que j'ai déjà entendu ce discours aussi chez d'autres femmes à qui c'est arrivé, ou voilà. Et donc ouais, je pense que ça a carrément joué sur le fait de baisser ma confiance en moi et d'avoir besoin tout le temps qu'on me dise ou tu vois pendant mon célibat là pas trop du coup, mais avec mon ex j'avais vraiment besoin qu'il me dise je t'aime en fait souvent, chose qu'il faisait jamais, donc en même temps peut-être c'était encore moins, enfin je lui demandais encore plus parce qu'il le faisait pas, mais j'avais ce besoin là aussi d'être sûre en fait tout le temps, de m'assurer qu'il ressent toujours quelque chose pour moi, qu'il va pas me lâcher du jour au lendemain quoi. J'ai pas envie que ça se reproduise, même sans me faire tromper encore, ça c'est clair, j'ai pas du tout envie de revivre ça, mais même juste tu vois de vérifier est-ce que t'as toujours des sentiments, est-ce que c'est bon pour toi, tu vois, chose que je pense qu'il faut pas demander trop souvent non plus. Et d'ailleurs, si on me le posait la question trop souvent, ça me ferait chier. Mais ouais, je pense que ça vient beaucoup de cette expérience, en effet.
Après, je me demande, tu vois, l'histoire de l'œuf et de la poule. Parce que pendant que tu étais en train de parler, je me disais, oui, mais en même temps, que en fait, c'est quand tu as dit que tu avais ressenti de la honte. Parce que, est-ce que du coup, c'était... Enfin, ça voulait dire quoi, la honte ? Est-ce que c'était... j'ai honte... Enfin, tu vois, c'est quoi la pensée qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui fait que t'as honte ? C'est j'ai honte parce que ça veut dire que, en fait, j'étais pas assez bien ? Ou tu vois, c'est quoi la pensée qui découle de l'émotion ? Tu sais le dire ou pas ?
En fait, je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais après, là où j'ai le plus eu honte, c'est peut-être pas tout de suite, mais en fait, c'est qu'après, moi, quand il me l'a dit, Je lui ai dit, bon, bah, donc j'étais un peu sous le choc et tout. Et après, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, en gros? Parce que c'était pas clair 100% pour moi que j'avais envie que les choses s'arrêtent là. Parce que je l'aimais. Et qu'en fait, du coup, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est. Dans ma tête, avant, c'était simple, je lui mets une baffe et je m'en vais. Et en fait, non, c'était pas simple parce qu'il y avait plein d'émotions. Et vu que j'étais amoureuse, bah, c'était pas si simple pour moi. Et j'avais envie d'en discuter. Et donc, quand je lui ai posé la question, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est lui qui m'a dit, bah, moi, j'ai pas envie de continuer. Et c'est vraiment ça, je pense, qui a fait aussi que j'ai ressenti de la honte. C'est de me dire, putain, genre, lui, il me fait une couille. Il me traite, voilà, pas bien. Et après, c'est lui qui m'achève presque, en fait. Enfin, et moi, je suis là, comme la pauvre petite fillette, en mode, oh, bah, reste. Enfin, voilà, c'était un peu comme une scène d'un film, comme tu disais. Alors que, enfin, en gros, le contraire, l'opposé de la femme forte, tu vois, l'image que j'ai en tout cas d'une femme forte qui s'impose et en quoi j'aspire aussi, tu vois. Et donc le fait d'avoir réagi comme ça et que ça soit lui qui ait besoin de me dire en plus, bah non, on arrête là, ça m'a vraiment foutu un coup et j'ai eu honte de mon attitude par rapport à ça. Je pense que c'est surtout ça en fait.
Après, j'ai envie de te dire, faut pas que t'aies honte de comment t'as réagi. Au contraire, tu vois, enfin, je pense, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et je pense que dans un moment comme ça, je comprends. En fait, je comprends ce que tu dis parce que moi, je suis comme toi. Je me dis, si ça m'arrivait, bon, je pense pas que je lui mettrais une baffe dans la gueule parce que je pense pas que c'est comme ça que je gérerais le truc. Mais ça serait plutôt genre, je pense que moi, je dirais rien. Je prendrais mes affaires, je me casserais. C'est ce que je me dis, mais je comprends qu'en fait, si t'es amoureuse, du coup, en fait, t'as deux trucs qui se battent en duel, en mode le truc que t'es censé faire parce que tu sais qu'on t'a pas respecté, et les émotions qui viennent s'en mêler et qui font que je pense dans un moment comme ça, c'est super dur de prendre une décision. Et à mon avis, le meilleur truc à faire, c'est peut-être de dire, ok, attends, là, je vais prendre l'air. Je sais pas quand je reviens. j'ai besoin de prendre du recul et je reviens après parce que le temps que les émotions se calment et tout ça. Enfin, j'imagine que ça pourrait être une façon de le gérer, mais je comprends ce que tu veux dire aussi sur l'image de la femme forte en mode si on sait genre si on a beaucoup d'estime de soi et si on se dit je vaux quelque chose et qu'on se dit je mérite pas ça, on peut peut-être plus facilement se mettre en colère. Mais je pense que ça demande c'est une construction en fait de réussir à construire cette image de soi, à réussir à l'appliquer dans des conditions comme ça. Enfin, moi, ça me parle parce que j'ai l'impression que c'est un chemin que je suis en train de faire. Alors, pas dans le domaine forcément sentimental, parce que du coup, j'ai pas forcément l'opportunité de le pratiquer, on va dire. Mais ça m'arrive avec d'autres trucs dans le milieu perso, tu vois, quand... je sens que là, ces temps-ci, je me suis plus affirmée et j'ai eu un espèce de gros ras-le-bol. Enfin, je sais pas comment dire, à l'intérieur, j'ai eu beaucoup d'émotions négatives. Bah, tu sais, je te disais tout à l'heure, j'ai fait des crises d'angoisse. Je disais ça avant qu'on commence à enregistrer. Et bon, on a les voitures qui klaxonnent dans la rue. Je sais pas si ça s'entend sur le podcast, j'espère pas, mais bon. Et en fait, j'ai eu une période où j'avais beaucoup de colère en moi et du coup, j'étais très énervée facilement par rapport à plein de choses, ce qui a fait que dans certaines situations, je rentrais en opposition directe, j'avais l'esprit de contradiction et je m'énervais ou quoi. Et en fait, donc, c'est pas forcément comme ça que j'ai envie d'être, parce que moi, j'ai envie d'être assertive, c'est-à-dire être capable de faire passer ce que je pense sans passer par l'émotionnel. Mais ça m'a fait du bien de passer par cette phase, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais peut-être pas de raison d'avoir peur du conflit ou de pas être d'accord avec les gens, parce que je me suis rendu compte que quand je disais les trucs... En face, la réaction, bon, surtout de mes proches, elle n'était pas forcément véhémente ou quoi. Et donc, tu vois, je sens que là, petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'assurance qui est en train de se mettre en place, une espèce d'affirmation de soi que j'avais pas avant. Mais tu vois, c'est des petits pas. C'est une fois comme ça, de temps en temps, ça se met en place. Et j'imagine que grâce à ça, je pense que maintenant, si je rentre dans une relation, j'arriverai déjà un petit peu plus facilement à dire vraiment ce que je pense et à pas suivre forcément... Enfin, à pas ne pas dire pour éviter le conflit, mais aussi peut-être dans une situation où, si jamais il y a infidélité ou quoi, à peut-être être un peu plus droit dans mes bottes. Je sais pas, parce qu'au final, ça restera un moment émotionnel sûrement et c'est difficile de l'anticiper. Mais voilà, mais pour dire que je pense que même si on l'est pas, on est tous, je pense, sur un spectre d'affirmation de soi et d'estime de soi, et je pense que ça se construit, et pas forcément que dans les relations. Moi, je pense que tout ce que je construis en dehors, typiquement dans ma phase de célibat, va me servir une fois que je serai en relation. Toute relation, en fait, hors amour, tout ce qui est familial, amical, même les gens à la boulangerie, quoi. Pour moi, c'est que des opportunités aussi de pratiquer ça. Et... Donc, ok. Et oui, je voulais rajouter aussi, juste par rapport à la question que je t'ai posée, est-ce que tu penses que ton estime de toi a baissé là? Et je disais, la poule et l'œuf, c'est est-ce que l'estime de soi a baissé à partir de ce moment-là, ou en fait, tu vois, je pense le sentiment de honte, est-ce que ça peut pas être justement qu'en fait, il y avait un manque, enfin, t'avais peut-être pas beaucoup d'estime de toi qui fait que t'as eu cette réaction-là, et donc honnêtement, je pose la question, c'est une réflexion en l'air comme ça, j'en sais rien, tu vois, mais par contre, moi, je voulais partager aussi de mon côté, je pense aussi savoir dire où mon estime de soi a baissé, parce que je me rappelle que quand j'étais au collège, en gros, en primaire collège, j'avais un peu du succès auprès des garçons et en gros, je pouvais assez facilement avoir le mec que je visais. Et en fait, ça a changé au lycée, sûrement parce que on est beaucoup plus nombreux, donc il y a aussi beaucoup plus d'éléments de comparaison. Tu peux être plus facilement comparé à d'autres, peut-être que, enfin bon, plein de raisons. Et je pense que dès que j'ai senti que j'arrivais plus à avoir, c'était plus aussi facile d'avoir quelqu'un. En plus, au collège, c'était tu dis à ta meilleure amie qu'elle aille demander au mec s'il veut bien sortir avec toi, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est surtout dans l'autre sens que ça se passait. Et donc, c'est facile, toi, t'as rien à faire. Et t'arrives au lycée, t'es un peu plus grand. c'est à toi de faire les efforts. Et moi, j'arrivais pas à faire ça, j'avais pas appris à le faire. Et du coup, les choses se passaient pas. Et j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait, peut-être que je plais pas autant que ce que je pensais. Et je pense que mon estime de moi a commencé à baisser à ce moment-là. Et tu veux réagir du coup par rapport à ça, vas-y.
C'est marrant que tu parles de ça. Je sais pas du coup si c'est trop encore dans le sujet ou quoi, mais moi c'est une grosse peur que j'ai. Je pense que j'ai toujours plus ou moins plu assez facilement aux garçons aussi. Toujours aujourd'hui en fait, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, écoute, visiblement ça va, même si j'ai pas forcément exactement celui que je veux à chaque fois, ou enfin je sais pas, mais bon. Et c'est aussi un besoin du coup de, par exemple quand j'étais en couple là pendant longtemps, régulièrement de vérifier, tu vois, si je plais toujours à d'autres gens, et j'ai une peur bleue du jour où ça sera plus le cas en fait. Et parce que je sais pas, tu vieillis ou peu importe, mais ça me fait super peur et ça me saoule d'avoir ce besoin aussi de tout le temps se dire est-ce que je plais encore quoi. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça.
Ouais, moi je me dis pas ça par rapport à parce que j'ai vieilli, parce que pareil, enfin en fait tu vois, ne serait-ce que t'es dans la rue, enfin tu vois, tant que t'as encore des regards qui se posent sur toi, tu dis c'est bon, et en plus tu l'as même pas contrôlé. Mais par contre moi ça serait plus sur tu vois, comme tu dis, c'est pas forcément celui que je visais ou celui qui me plaît le plus. Moi, c'est plus ça, c'est un peu le côté c'est bien gentil que je plaise à ceux-là, mais moi, c'est pas ceux-là qui m'intéressent. Donc, c'est un peu horrible de dire ça parce que c'est quand même cool. Je veux dire, c'est quand même plaisant, tu vois. Je m'en plains pas, ça me fait plaisir. Je le prends comme un compliment, tu vois, quand j'ai un regard, même si ça dure pas longtemps. Mais ouais, c'est un peu cette peur est-ce que je vais réussir, un, à trouver quelqu'un qui me plaît, parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui m'attire physiquement, et deux, où c'est réciproque, parce que ça m'est arrivé d'être attirée physiquement par quelqu'un et que ce soit pas réciproque, ou en tout cas pas pour être en, pas jusqu'à aller au couple. Donc bon, ouais, c'est une une peur partagée. Je regarde mon petit carnet pour voir ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu es familière avec ton design humain ou pas ?
Non, pas du tout.
D'accord, ok. Alors bon, vu que j'ai initié le sujet, je le dis juste, mais en fait, le design humain, qui est un outil de connaissance de soi, il y a un des centres énergétiques dedans qui est lié à l'estime de soi, et les centres peuvent être définis ou non définis, et s'il est non défini, il y a plus de chances d'avoir des problèmes d'estime de soi que quand il est défini. Et du coup, je me demandais si pour toi, il était peut-être non défini, ce qui pourrait expliquer, on va dire, un terrain fertile, un terrain de base au manque d'estime de soi. Moi, il est défini chez moi et personnellement, j'ai l'impression d'avoir quand même une haute estime de moi, mais qui s'est finalement, qui a été un peu effritée avec certaines expériences de la vie et j'ai l'impression d'être en train d'essayer de la reconstruire dans certaines circonstances. Mais tu vois, moi, j'arrive pas à me mettre en couple avec quelqu'un qui verrait pas qui je suis. En fait, ça m'est arrivé bizarrement, tu vois, récemment. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'intéressait à moi. Je savais pas si c'était amical ou plus. À un moment, j'ai l'impression qu'il a tenté de m'embrasser à une soirée, donc je me suis dit que peut-être c'était plus, mais peut-être que j'ai rêvé, je sais pas trop. Mais le pire, c'est que je m'entends super bien avec cette personne, on discute super bien, il est écolo et féministe, donc c'est des valeurs 1. Mais là, oh ouais, putain, le must du must. Moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais... premièrement, je ressentais pas particulièrement, j'arrivais pas à passer outre, au-delà de juste un truc amical, tu vois, je ressentais pas une attirance physique pour lui. Mais en plus de ça, tu vois, il me racontait aussi, un peu ses aventures, parfois, voilà, il me disait les filles qu'il voyait, ou elle, un tel, c'est mon ex, là, j'ai eu un date, enfin, il me racontait un peu. Et j'ai eu un peu cette impression que moi, qu'il s'intéressait à moi parce que j'étais une fille. Et pas parce que j'étais moi. Et qu'en fait, son intérêt, c'était un intérêt de quelqu'un qui a envie d'avoir une histoire, qui a envie d'avoir une aventure ou une relation ou d'être en couple, mais pas parce que c'est moi. Juste parce qu'il a l'opportunité de discuter avec moi et que si j'étais OK, ça pourrait se faire. Et en fait, moi, ça me bloque parce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui est avec moi parce que c'est moi, tu vois. Du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, pour l'estime de soi. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est justement mon estime de moi qui parle, tu vois, qui dit bon, attends, moi, je mérite qu'on soit avec moi pour moi, tu vois. Peut-être que c'est l'inverse. J'en sais rien. Honnêtement, c'est que des hypothèses. Et d'ailleurs, oui, au début du podcast, tu disais que t'avais découvert l'amour de soi en écoutant un peu les podcasts. C'est-à-dire que pour toi, avant, l'option face à tes envies de validation et de recevoir des compliments, et d'affection, c'était de te mettre en couple. Et t'as découvert qu'il y avait une option 2 qui était l'amour de soi. Est-ce que tu peux dire quelle est ta définition de l'amour de soi? Qu'est-ce que toi, tu mets dedans? Comment tu vois ça?
La question à 1000 euros. Non, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je mets dedans? En fait, je pense que pour moi, ça serait ne plus avoir besoin d'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre ou d'avoir en tout cas une validation extérieure pour me sentir aimée, quoi, en fait. Voilà. Ne plus avoir besoin forcément d'affection extérieure. J'aime et c'est super agréable et j'ai envie de continuer à en recevoir. Mais j'aimerais bien que ça soit plus un besoin vital, tu vois, comme c'est aujourd'hui. J'aimerais bien que ça soit un peu du bonus, quoi. En fait, voilà, c'est peut-être pas très clair, je sais pas, mais pour moi, ça englobe un peu tout ce que je mets derrière amour de soi, en tout cas.
Oui, c'est très clair et c'est très lié au final à ta situation, à toi, ce que tu mets derrière. Mais pour donner un exemple, alors c'est plus dans le domaine amical, mais je te disais aussi avant qu'on commence que j'ai eu un petit épisode de déprime il y a quelques jours et j'en discutais avec une amie par vocaux WhatsApp et puis j'ai expliqué que je me sentais un peu repliée sur moi à ce moment-là, que avec toute l'année qu'on vient de vivre, un peu du mal à repartir voyager et tout. Et que j'étais un peu en repli, j'arrivais pas à être l'aventurière que j'étais avant, tu vois. Et elle m'a envoyé un vocal sur WhatsApp en me disant, tu vois, je lui ai rien demandé, mais elle m'a dit, je sais que là t'es pas bien, mais en gros, moi, voilà comment je te vois, voilà ce que moi tu m'apportes, et elle m'a décrit des trucs. Et tu vois, je lui ai dit, franchement, ça me met les larmes aux yeux, parce que là, je suis dans un moment où je me sens pas bien, donc forcément, d'entendre ça, ça tombe au bon moment, tu vois, ça me fait du bien. Mais, je l'attendais pas, tu vois, c'est-à-dire que, à la fois, j'étais surprise qu'elle l'ait fait spontanément, surprise de ce qu'elle disait, parce que tu découvres un peu comment tes amis te voient aussi, tu sais, ils mettent leurs mots à eux, tu dis ah bon, tu trouves ça, ah bon, tu trouves ça, mais pourquoi? Parce que toi, tu te vois pas, tu peux pas ressentir envers toi-même ce que les autres peuvent ressentir envers toi, parce que t'es toi, tu vois. Et tu vois, justement, ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais dans cet état où je cherchais pas à ce qu'on me le dise, parce que du coup, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire que ça fait longtemps que j'ai commencé à apprendre à m'apporter les trucs à moi-même. En tout cas, j'ai enfin réussi à faire le chemin, je pense, cette année. Et du coup, je l'ai reçu comme un bonus, mais c'est un bonus qui fait du bien parce que là, tu vois, c'est une vraie amie. Elle a entendu que j'allais pas bien. Elle a su que là, c'était le moment de me le dire, tu vois. Et je l'ai fait aussi pour elle dans l'autre sens. Donc, mais voilà, c'était plus un bonus. Et donc, je pense que ça peut ressembler à ça quand c'est un bonus, du coup. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, je me posais une question puisque tu as dit que tu as commencé ton activité entrepreneuriale à peu près au même moment où tu t'es séparée. Est-ce que tu as l'impression, enfin du coup, tu es sur une activité entrepreneuriale où tu es indépendante, donc tu travailles seule. Est-ce que tu as l'impression que peut-être ça a fait genre un double changement, qui a fait une double solitude, parce que peut-être avant, tu voyais peut-être plus de monde et que peut-être ça a amplifié le sentiment de solitude dans ce moment-là?
Je pense pas. Enfin, c'est une peur que j'avais. C'est une peur que j'ai peut-être moins, un peu, mais moins. Et que j'avais beaucoup au début. Ouais, je me suis dit, putain, l'entrepreneuriat et tout, je vais être seule, il faut que je m'entoure, machin. Au final, c'est quelque chose que j'ai petit à petit réussi à faire. Je continue, hein, mais assez rapidement. Et j'étais contente. En fait, j'en avais tellement marre du salariat et des. Enfin, j'adorais mes collègues, hein, mais. Mais je me lasse très vite des gens et des mêmes conversations et tout ça. Enfin, voilà, je me lasse vite de tout, mais voilà, aussi des gens. Et du coup, j'étais contente de bosser chez moi, d'être seule là-dedans. Donc, pas tellement. Je dirais pas que c'était une double peine. Par contre, c'était une peur. Ouais, c'était une peur. Mais au final, ça s'est pas concrétisé. Et ça me fait penser aussi que c'est trop con, mais en fait, sur ma rupture, du coup, on a mis un mois et demi à se décider, un mois et demi de vraiment, genre, ça va vraiment pas bien, avant de prendre la vraie décision de bon, là, c'est bon, on arrête tout. Et forcément, au bout de autant de temps de relation, bah, en fait, je me posais plein de questions plus rationnelles de ouais, mais du coup, si on se sépare, ces projets-là, je vais pas les faire. Je vais me retrouver seule, ça me fait peur. Mais il y avait aussi, est-ce que je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat en étant seule, alors que là j'avais un soutien émotionnel qui est quand même non négligeable, financier aussi parce que il est salarié. Et je sais que si, enfin voilà, je savais que qu'on pouvait vivre sur son salaire si besoin de temps en temps, quoi. Donc c'est des questions que je me suis posées par rapport à ça et presque qui m'ont freinée. Et c'est vraiment pas les bonnes raisons de rester avec quelqu'un, hein. Mais n'empêche que c'était quand même des questions que je me posais, des peurs que j'avais. Mais au final, ça s'est très bien passé. Donc il y a pas de souci.
Oui, mais ça me paraît normal de se les poser. Devenir entrepreneur, c'est quand même un pas, un gros pas. Donc c'est normal, je pense, de penser à tout ça. Qu'est-ce que t'as... On a parlé un peu tout à l'heure de l'aspect difficile, peut-être du célibat, les réalisations que t'as eues par rapport à toi, les trucs que t'aimerais peut-être améliorer, changer. Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses positives qui ressortent de ce célibat et quelles sont-elles?
Oui, franchement, dans l'ensemble, je vis très très bien cette période. J'ai jamais autant appris sur moi que pendant ces 5 mois. Donc ça, c'est vraiment top, hyper positif. Ouais, c'est principalement ça. J'ai écouté un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table et qui m'a énormément chamboulée et qui m'a fait me poser plein de questions sur les relations de couple, en fait, principalement en général, et de se dire, bah, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que, enfin voilà, plein de questions là-dessus qui sont, pour moi, c'est une réflexion qui est très positive parce que c'est des questions qui sont importantes de se poser. Et puis voilà, dans l'ensemble, je suis aussi contente de me retrouver un peu seule, de retrouver ce qui me fait kiffer, de renouer avec mes amis. Franchement, ça, c'est un gros point positif. Et comme je le disais, bah, c'est quelque chose, je sais que maintenant, j'ai envie de nourrir ces relations et de pas les laisser filer, quoi, devant une relation de couple parce que c'est trop important pour moi. Et voilà, principalement plein de choses comme ça, me redécouvrir, tout ça, tout ça.
avoir du temps.
Cool, ça fait plaisir de savoir qu'il y a aussi du positif qui sort de là. Et mon dernier groupe de questions, en gros, c'est par rapport au futur. Comment tu vois la suite pour toi? Comment tu vois ton futur en termes de vie sentimentale?
Je suis quelqu'un qui est tendance à me faire plein de films et me projeter sur pas mal de choses, mais en même temps, je sais jamais répondre à ces questions-là, donc j'ai pas de... Ça me fait peur de penser au futur aussi, je pense, que ce soit pro, perso ou enfin voilà, sentimental. Donc j'ai pas de, je sais pas, mais je sais que autant je me posais plein de questions comme je disais là sur est-ce que la relation de couple c'est vraiment ça qui me conviendrait finalement. Je pense que oui. Enfin, au final j'aimais bien être en couple, j'aimais beaucoup ça. Il y a plein de voilà, il y a des débats, il y a plein de trucs qui sont chiants, faut faire des compromis, etc. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Et je sais que c'est quelque chose qui va me refaire envie. Ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est plus un moment où peut-être se posera la question de vivre avec quelqu'un, donc partager un logement. Parce que c'est quelque chose que j'ai bien aimé et qui me fait envie aussi, mais où je trouve qu'il y a beaucoup de risques de glisser un peu dans une routine qui a un côté zone de confort qui est très agréable, mais en même temps... qui me fait peur parce que voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimais pas par rapport à ça. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais enfin, ça change la nature d'une relation. Et donc ça me fait un petit peu peur et je sais pas trop. Voilà, j'ai pas envie de, tu vois, même si je me remets en couple bientôt, c'est pas une envie que j'ai dans l'immédiat. Mais bon, ça viendra. Et après, bon, on se pose la question des enfants. Enfin, du coup, si on parle du long terme, et pour le coup, c'est gros point d'interrogation total. J'ai vraiment pas de certitude par rapport à ça. Je sais pas si j'en veux ou pas. Je sais pas. Ça me fait très peur aussi. Donc, j'y pense pas trop. Mais voilà, autour de moi, mes amis, au fur et à mesure, font que bah, c'est des questions que tu te poses aussi. Donc, ça finira bien par arriver. Voilà.
Ok, est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je t'aurais pas posée ou quelque chose que tu n'as pas eu l'opportunité de dire au travers de mes questions que tu voudrais rajouter ?
Ouais, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que j'aimerais bien partager rapidement peut-être les choses qui m'ont un peu aidée aussi pour dépasser, ou enfin, ok, je ne suis pas au bout du chemin, hein, mais voilà, qui m'ont un peu aidée pendant cette période. Il y a le fait de, je pense, toute la démarche entrepreneuriale qui est propice à l'introspection et à travailler sur soi, à apprendre sur soi de manière générale, qui était bon, mais des moments très inconfortables, mais voilà, ça fait progresser. Le fait de m'entourer, enfin d'oser au bout d'un moment, je disais, j'arrivais pas, enfin j'avais envie de me confier, j'avais plus personne parce que j'avais plus mon ex, quoi. Et d'oser aller vers du coup ma sœur, parce que c'était finalement la personne, je me suis dit on est proches et en vrai c'est la famille, tu vois, elle me doit bien ça. Je peux la saouler, elle, et l'appeler pendant des heures, et d'oser faire ça, ça m'a vachement aidée, et les conseils qu'elle m'a apportés, le fait de pouvoir discuter, de m'entourer et tout, et les podcasts de ouf, je pense que ça m'a vachement fait progresser aussi, apprendre des choses, me poser des questions, avoir peut-être des exercices. Dans les exos, il y avait un truc, je crois que c'était toi qui en parlais dans un épisode, j'avais noté des croyances un peu négatives que j'avais sur moi, du style mauvaise estime de moi, quoi. Et j'en avais pris trois qui me taraudaient le plus à ce moment-là, et je les avais un peu retournées pour que ça soit positif. Sans forcément que ça soit l'opposé, mais voilà, quelque chose des croyances un peu positives que je pourrais avoir ou que j'aimerais avoir sur moi. Et je les relisais deux fois par jour pendant un mois. Et ça m'a pas mal aidée. J'ai l'impression que ça a bien marché pour moi. Je pense que c'est pas suffisant, mais c'était un peu le coup de lancement, enfin, un peu le début d'une démarche ou de formalisation d'un travail sur moi. Donc ça, c'était cool. Euh, et, euh,
Et puis je me suis remise au sport et c'est trop con à dire, mais ça m'a trop, enfin ça m'aide trop en fait. Et je crois que ça canalise un peu, ça permet de me défouler. En plus, ça m'a, du coup, ça m'a permis d'aller plus vers un corps aussi que je préfère, sans que ça soit forcément l'objectif qu'il faut à tout prix avoir, mais ça aide, enfin voilà, ça aide forcément, donc c'est cool. Le sport, ça m'a bien aidé, et le temps, voilà, le temps quoi. Et je me rends compte que à force d'écouter des podcasts, de vivre des situations, finalement le fait aussi de rencontrer d'autres mecs et d'avoir des aventures a été éprouvant sur pas mal de points, mais m'a vachement fait progresser aussi. Plus vite peut-être, je sais pas, ça m'a un peu comme un coup d'accélérateur, d'avoir des moments très inconfortables, bah il faut passer, faut arriver à les passer, et du coup bah j'apprends sur moi, et j'apprends vachement à observer aussi. J'ai l'impression que maintenant ça fait quelques années que voilà, je fais un peu développement perso, tout ça à raison de on va dire période concentrée où je me renseigne vachement à fond là-dessus, et après plus trop. Mais j'ai l'impression que ça apporte un peu ses fruits, dans le sens où j'arrive à observer facilement des comportements que je peux avoir ou des réflexions que je peux avoir d'un point de vue extérieur, et de me dire tiens, j'ai cette réflexion là, c'est pas cool, j'aime pas trop ça, ou alors je pense que ça vient de là, ou même au bout d'un moment bah celle-là je la connais quoi. Et c'est con parce qu'en fait j'entends tout le temps tout le monde dire ça dans le développement perso, et je me disais bah ouais c'est bon, voilà, tout le monde parle de ça, s'observer ça suffit, enfin c'est déjà bien et tout, mais pour moi c'était pas suffisant, et j'arrivais pas forcément à le faire, et au final au bout d'un moment je me rends compte que ça vient de plus en plus naturellement, donc c'est pas forcément un conseil que je donne, enfin je sais pas trop, mais ouais, rien que ça, j'ai l'impression que ça aide pas mal, et le fait d'observer ses réactions, de se rendre compte, de conscientiser tout ça, c'est un gros c'est un gros coup de pouce, enfin ça m'aide à avancer quoi. Voilà, je voulais partager tout ça avec vous.
Ben parfait, parce qu'effectivement j'avais oublié de poser la question. Donc c'est parfait. Ben merci Estelle d'avoir partagé tout ça. Au final, on aura discuté quand même bien pendant une heure. Merci à vous tous qui avez écouté. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.
À bientôt. Bisous.